Je vous propose de rester dans le thème, hein, que vous avez compris, j'espère, donc autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Et mon propos ce matin aura pour titre « La Bible n'est pas un livre comme les autres ». J'espère que vous en êtes tous convaincus, mais c'est bien de temps en temps de se le rappeler et de découvrir sous quels aspects cette parole, cette Bible n'est pas un livre comme les autres. Alors, deux versets pour introduire mon propos, et on reviendra sur ce texte. Donc, verset bien connu, c'est le chapitre 55 du livre d'Ésaïe, les versets 10 et 11. « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Oui, la Bible, un livre qui a changé le monde, un livre qui permet de comprendre notre histoire, un livre qui dévoile le secret de la vie. La Bible est l'un des plus anciens livres du monde. Elle a profondément marqué l'histoire de l'humanité, de notre culture. Elle est toujours un des livres le plus vendu, le plus traduit, le plus lu au monde. C'est aussi le seul livre, l'unique livre, qui a fait l'objet d'autant d'attention depuis des millénaires quant à sa traduction, quant à sa conservation, quant aux soucis dans les multiples copies, le souci de l'intégrité du texte, du message. Un livre décidément unique en son genre. Alors que renferment ces nombreuses pages? Comment la Bible nous est-elle parvenue? Comment peut-on se fier aujourd'hui aux travaux des traducteurs, de ceux qui, bien des centaines d'années auparavant, ont eu ce souci de recopier avec fidélité le texte, de le traduire en respectant l'esprit du texte? Alors je ne répondrai pas à ces questions, ça serait trop long. Je vous invite à aller à l'Expo Bible, si vous n'y avez encore pas mis les pieds, et vous verrez, il y a de nombreuses explications pour répondre à ces questions-là. Une autre question qui peut se poser, je voudrais lire la Bible, c'est la première fois que j'ai ce livre entre les mains, par où je commence? Dans une époque telle que la nôtre, la Bible peut-elle encore nous apporter des réponses aux questions fondamentales que l'on se pose? Cette Bible ne se lit pas seulement comme un roman, elle peut être lue comme un roman, mais pas seulement. Cette Bible peut être lue comme un livre d'histoire, mais pas seulement. Elle peut être lue comme un livre scientifique, mais pas seulement. En tout cas, elle se déroule sur des siècles et contient aussi de nombreux récits de vie, des poèmes, des textes de sagesse, des discours, mais aussi des visions. La Bible n'est pas seulement un dictionnaire, pas seulement un traité d'histoire antique, pas seulement un manuel de psychologie appliquée, quoique. La Bible est avant tout la révélation de Dieu aux hommes. C'est un traité de relations humaines. Et je pense que bien des directeurs de ressources humaines de grandes entreprises feraient bien de s'en inspirer. Il ne faut pas s'approcher d'elle avec scepticisme, préjugés, idées préconçues, ni prétentions quelconques. La Bible nous fait entrer dans l'histoire de l'humanité, de la nuit des temps jusqu'à la fin du monde. Elle nous révèle la personne de Dieu, de son ou de ce Fils unique, Jésus, donné en sacrifice, et son message pour l'humanité. Le péché d'Adam et Ève, Noé et son arche, La personne de Jésus et bien d'autres encore font sourire quand vous parlez de ces circonstances ou de ces personnes. Mais ces personnes-là, justement, Adam, Ève, Noé et les autres, se sont posées des questions et ont vu de leurs yeux des choses incroyables. La Bible rapporte des morceaux de vie, des réflexions, des expériences de foi. Elle nous parle de ces femmes et de ces hommes avec vérité, sans contourner leurs difficultés et leurs doutes. La Bible ne cache rien. Il y a certains personnages dans les Écritures qui ont vécu des hauts, mais aussi des bas. Et la parole ne les cache pas. Je pense simplement à Élie, cet homme bouillant pour son Dieu, pour l'Éternel qu'il voulait servir, et qui a passé un moment de sa vie dans une dépression la plus profonde qui soit. La parole de Dieu ne nous a pas caché ce pan de vie d'Élie. En cela, la Bible n'est pas une suite d'histoires de héros glorieux, mais bien une bibliothèque de livres bien différents, ayant pour thème principal Dieu et les hommes. Par les récits, les textes poétiques, des proverbes, des prophéties, des lettres, la Bible nous fait comprendre la complexité de la relation entre Dieu et les humains. Qu'il soit roi ou simple berger, qu'il soit sage ou prophète, qu'il soit pêcheur ou docteur de la loi juive, tous ces personnages ont vécu une expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui encore, l'existence de Dieu reste un mystère. Pourtant, la Bible est à la fois le témoin de la présence de Dieu, mais aussi un livre ancestral qui a traversé le temps grâce au travail méticuleux des copistes qui ont recopié le texte biblique durant des siècles avec le souci et la rigueur. Ce travail s'effectuait donc à la main, sur des parchemins, d'où le nom de manuscrit. Le papyrus ou le parchemin sur lequel les textes étaient écrits n'était pas éternel non plus, et lorsqu'ils se sont détériorés, il fallait les recopier. Allez voir à l'expo, c'est tout expliqué. Il fallait recopier leur contenu à la main et avec des protocoles extrêmement précis, avec des vérifications et des contrôles. Chaque coup de plume comptait pour que le texte nous parvienne encore aujourd'hui dans la fidélité de l'esprit de la lettre. Cela explique aisément que les manuscrits originaux, autographes de l'Ancien et du Nouveau Testament, aient été perdus. Et nous avons à notre disposition que des copies, dont certaines sont très anciennes. Encore une fois, à l'expo, vous verrez de ce genre de copies. L'invention de l'imprimerie a révolutionné, bien sûr, l'édition des livres, et notamment de la Bible, permettant ainsi une vaste diffusion du texte sacré. Mais je voudrais aussi souligner ici le travail très complexe des traducteurs. Si nous réfléchissons quelques instants à ce travail, cela peut donner le vertige, tant il paraît gigantesque et délicat. Si on considère, bien sûr, la taille du texte, le travail sur la conservation du sens des mots, la pratique des langues très anciennes, pour couronner cela, l'ampleur de la valeur spirituelle qui fait de la Bible un livre unique. Et cela confère donc, j'espère que vous l'avez compris, aux traducteurs une grande responsabilité. Qu'il s'agisse de passer d'une langue à une autre ou de s'adapter à l'évolution d'une langue au travers des siècles, ce travail est remarquable et bien souvent oublié. Oui, décidément, la parole de Dieu, c'est un trésor à la portée des mains de nos contemporains. L'histoire du christianisme n'a pas toujours été bien glorieuse, vous en conviendrez avec moi. Il faut le reconnaître. Pourtant, la Bible nous est parvenue. Elle est toujours là, bien présente. Elle est toujours un des livres le plus lu, le plus vendu au monde. Elle fait partie de notre histoire, de notre patrimoine depuis 2003. Même des textes de loi, comme le Code Napoléon, s'en sont inspirés. Au cours des siècles, elle a aussi inspiré de nombreux artistes, des musiciens, des peintres, des sculpteurs. Encore aujourd'hui, elle est une référence et une source d'inspiration pour de nombreux publicitaires qui reprennent des concepts bibliques pour faire passer leur message. La Bible a donc marqué notre culture, notre mode de vie, nos valeurs. Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, elle est accessible à tous, sur toutes sortes de supports et dans de multiples langues. Elle est toujours le livre de chevet des chrétiens, un réconfort pour ceux qui cherchent à connaître Dieu. Elle ne laisse jamais indifférent. Elle est une réponse à de nombreuses questions existentielles que l'homme moderne se pose. Oui, cette parole est juste à la portée de notre main. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce merveilleux verset de Jean 3,16, c'est l'évangile ou le message central du livre qui est résumé dans ce verset. L'amour de Dieu n'est marqué ni par l'immobilisme, ni par l'égocentrisme, il est tout simplement ouvert sur l'extérieur et attirant. Dieu révèle ici, dans sa relation avec son Fils, avec ce Fils, la nature et le fondement de toute relation d'amour véritable. Si vous aimez tendrement quelqu'un, vous désirez lui donner librement, jusqu'au sacrifice peut-être de vous-même. En offrant la vie de son Fils, Dieu a payé le prix fort. Il a fait le maximum. Jésus a accepté la sanction que nous méritions. Il a payé un prix énorme pour que nos péchés soient effacés. Et il nous a fait don de la vie nouvelle qu'il avait acquise pour nous. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, faisons-le avec le même amour que lui, si possible. Par amour, soyons prêts à renoncer au confort et à la tranquillité pour que d'autres puissent se joindre à nous et recevoir à leur tour l'amour de Dieu. Par la Bible, le Tout-Puissant se fait connaître à l'âme humaine. Or, il ne dispense pas ses trésors inconsidérément. Il les confie à ceux qui sont assez humbles pour éprouver le besoin de son secours. L'humilité est donc la condition essentielle à une lecture édifiante et profitable des Saintes Écritures. Je peux ouvrir ma Bible comme j'ouvre le courrier qu'un préposé met chaque matin dans ma boîte aux lettres. Un courrier prioritaire qui me parvient de celui que j'aime et pour lequel je vis. Son objectif est de me faire connaître Dieu et de m'amener à l'aimer et à conformer ma vie à sa volonté. Cette connaissance n'est pas théorique. Elle est à appliquer aux diverses situations de ma vie et ce courrier journalier ne contient pas toujours ce que je voudrais entendre. Mais il contient ce que je dois entendre. Avez-vous déjà lu en entier la lettre de Dieu pour vous? Il suffit d'en lire un peu plus de 3 chapitres par jour pour le faire en 1 an. Et les plans de lecture de la parole de Dieu sont nombreux. Quelqu'un a encore parlé, a appelé la Bible le manuel du fabricant. Lorsque j'exerçais ma profession dans le domaine de la traction des trains dans une grande entreprise ferroviaire, lorsqu'on formait nos conducteurs à piloter les nombreuses séries de locomotives, nous fournissions toujours à ce personnel ce qu'on appelle toujours un manuel de conduite. C'est un petit fascicule qui, en général, contient entre 50 et 100 pages, selon la complexité du matériel de la locomotive. Vous imaginez celui d'un TGV qui contient 150 pages. C'est le manuel de conduite pour chaque série de locomotives ou chaque série de rames. La meilleure façon d'opérer était bien sûr celle indiquée par celui qui a conçu ce matériel, quel que soit le constructeur. Pour moi, ce manuel-là qui est devant moi, qui est devant vous, qui est peut-être dans votre poche, m'apprend donc aussi à me connaître et à comprendre le monde dans lequel je vis. Les chrétiens reconnaissent la Bible comme la parole de Dieu. Mais combien la lisent comme la parole de Dieu pour eux, personnellement et aujourd'hui. Prenons un texte connu que je vous propose de lire, bien entendu, comme une parole que Jésus a adressée à ses disciples, et plus encore comme une parole de Jésus pour nous, aujourd'hui peut-être, à cet instant. Pour mieux saisir ce principe, j'ai repris ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 3 à 11, dans lequel, et ça vous est déjà arrivé, on vous l'a déjà proposé, de remplacer le « vous » par « tu ». Et voilà ce que ça donne. Écoutez bien. C'est dans la traduction que j'affectionne particulièrement. Déjà, tu es pur, à cause de la parole que je t'ai annoncée. Demeure en moi, et je demeurerai en toi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi tu ne le peux non plus, si tu ne demeures en moi. Je suis le cep, tu es un sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, tu ne peux rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras et cela te sera accordé. Si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que tu seras mon disciple. Comme le Père m'a aimé, je t'ai aussi aimé. Personne dans mon amour demeure dans mon amour. Si tu gardes mes commandements, tu demeureras dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je t'ai dit ces choses afin que ma joie soit en toi et que ta joie soit parfaite. Amen. Si la Bible est mon manuel de vie, mon manuel de conduite, sa lecture devient l'un des moments privilégiés de ma journée. Dieu me parle régulièrement et précisément. Mon appétit grandit, et avant longtemps, j'aurai achevé de la lire. Mais je recommencerai, et la révélation se précisera, grandira. Mes objectifs, ça peut être l'étude de certains personnages bibliques. Ça peut être une étude de doctrine, peut-être des questions plus personnelles pourront accompagner en tout cas cette nouvelle lecture. Et je conclurai mon propos par de nouveau quelques versets dans Ésaïe 55. À partir du verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Un peu plus loin, à partir du verset 6, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen.